Le progrès chrétien de George Whitehead, quatrième partie, suite davantage de controverses avec des prêtres et des ministres lorsque j'appris que dans plusieurs endroits, les prêtres, on appelait prêtres les ministres, prêchaient contre nous. Un souci grave et dicté par la conscience s'imposa à moi d'envoyer un message à plusieurs d'entre eux, leur demandant une rencontre dans leur lieu public ou leur église paroissiale, afin que nous puissions avoir une discussion loyale, en présence de leurs auditeurs, au sujet de nos divergences ou de tout. Par ce moyen, je pus organiser plusieurs réunions publiques avec eux, dont je rapporterai quelques cas survenus en 1659. Certains ministres du comté de Kent s'opposaient à nous très activement, surtout dans les du Kent, autour de Sandwich et de ses environs. L'un d'eux en particulier était Thomas Danson, ministre à Sandwich, qui accepta de tenir une réunion publique avec quelques-uns de nos amis. Lorsque nous l'apprenions alors que nous étions à Londres, Richard Robeson, Samuel Fiché et moi-même convînmes de rencontrer ces prêtres à Sandwich, et nous entreprîmes notre voyage dans le Kent vers le début de l'été. Le jour fixé, nous étions à Sandwich le matin. Lorsque, à ce moment-là, nous arrivâmes à leur église paroissiale ainsi nommée, elle était devenue si encombrée par la foule rassemblée qu'il était difficile de s'y frayer un passage. Cependant, on nous fit place. Les ministres montèrent près de la chaire et nous entrâmes dans un banc en face d'eux. Thomas Danson était leur meneur dans la controverse contre nous et contre nos principes chrétiens, parmi lesquels on disputait la lumière universelle du Christ dans les hommes, la perfection comme étant atteignable en cette vie, par la puissance du Christ au-dedans, la justification par la sanctification, et au sujet des Écritures de vérité et de leur véritable usage, avec l'aide de l'illumination divine, telle que nous les reconnaissions et les professons réellement. Richard Robeson et moi, pendant un certain temps, nous relayâmes pour répondre aux objections et questions des ministres, selon la simple Écriture. Je m'efforçais sérieusement d'amener les ministres à limiter la discussion à des arguments qu'ils pouvaient étayer par les Écritures, et je les pressais aussi d'user d'une parole simple afin de servir à l'information et à l'édification du peuple. Alors Thomas Danson parut très mal à l'aise et voulut présenter ses arguments à sa manière logique de raisonner par syllogisme astérisque qu'il tenta de m'ignorer en demandant à Samuel Fiché de mener la dispute en syllogisme, s'écriant « Monsieur Fiché, je vous prie de prendre en charge la dispute ou de me répondre par syllogisme. » Samuel répugnait à s'en charger et indiqua humblement au peuple que la controverse était si bien conduite par ses amis, Richard Robeson et moi-même, qu'il préférait se taire. Il leur dit en outre que ses amis, c'est-à-dire nous deux, pesaient plus lourd sur les épaules des prêtres qu'ils ne le pourraient, en disputant logiquement avec eux, car une dispute de logique tendrait à tenir les choses davantage cachées à l'entendement du peuple, et ainsi les prêtres seraient plus capables de se dérober au regard du peuple. Astérisque un syllogisme est un raisonnement déductif dans lequel une conclusion est tirée de deux prémices. George Fox avait l'habitude de ridiculiser la logique des syllogismes en disant « puisqu'un poulet a deux pattes, et puisque les gens ont deux pattes, donc les gens sont en réalité des poulets ». Bien que le ministre fît du bruit pour m'empêcher de pouvoir communiquer avec Samuel Fiché, il daigna enfin lui répondre par la logique, selon l'humeur et la figure, comme il disait, et ils tinrent le débat ainsi pendant quelque temps. Samuel pressa sérieusement le ministre qu'il existait une chose telle que les bonnes œuvres. Il disait que puisque les œuvres du Christ en l'homme étaient méritoires, de telles œuvres méritaient la justification et le salut, et que le ministre ne devait pas s'opposer aux œuvres ou aux souffrances du Christ hors de l'homme, parce qu'elles étaient méritoires. Ainsi, argumentant que si les mauvaises œuvres méritent la damnation, alors les bonnes œuvres méritent la justification. Son intention était de promouvoir les œuvres du Christ, distinguer des mauvaises œuvres qui méritent la damnation comme conséquence. Mois après, les ministres essayèrent de le comparer à Bellarmine astérisque mais très injustement, car Samuel ne plaidait que pour de telles bonnes œuvres que le Christ suscite, dont il est l'auteur comme des œuvres méritoires, en vue du salut de l'homme et de la paix avec Dieu, sachant que c'est par la grâce, par la foi que nous sommes sauvés et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que et assurément, la grâce qui sauve est le don de Dieu, de même la vraie foi est l'œuvre de Dieu par le Christ, et c'est aussi une bonne œuvre, et il est aussi notre devoir et notre œuvre de croire lorsque, par la grâce de Dieu, il nous est donné de croire, comme lorsque nous recevons cette foi qui vient de l'opération de Dieu, et que nous sommes réellement dans l'obéissance de la foi. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, Bellarmine était un cardinal jésuite catholique qui prenait les œuvres comme justification, mais ne précisait ni ne qualifiait les œuvres comme étant uniquement celles dirigées par l'Esprit de Dieu. Les protestants veulent dire « ne faites aucune œuvre, ni avant ni après avoir cru, si vous en faites, vous niez le sacrifice du Christ ». Les catholiques disent « la foi sans les œuvres est morte, il faut mener une bonne vie avec de bonnes œuvres pour entrer au ciel quand on meurt ». Les vrais chrétiens disent « certes, c'est par la foi que vous êtes sauvés, Concernant les œuvres, les catholiques ont à moitié raison, la foi sans les œuvres est morte. Mais les œuvres issues de votre esprit charnel, que vous inventez vous-même, ne comptent pour rien. Les œuvres doivent commencer par la repentance et l'obéissance à la croix. Vos œuvres deviennent alors des œuvres accomplies, animées par la foi, dans l'obéissance à la direction de Dieu, et faites dans l'amour de Dieu. Les œuvres d'obéissance sont les seules œuvres qui comptent. Et la croix est le commencement pour tout vrai chercheur. Leur principale objection était que toute sanctification ou sainteté opérée en l'homme par le Christ est imparfaite en cette vie, donc ne justifie pas. Ce qui revient encore à invalider l'œuvre du Christ et à diminuer sa dignité, ou sa valeur, sa dignité et son mérite, lui qui ne méritait pas de souffrir, mais méritait de régner et de gouverner. Le Christ n'a pas mérité ses souffrances, mais il a mérité son royaume et la gloire qui s'y attache, et son mérite contribue à notre justification et à notre salut, à la fois par sa propre obéissance au Père, et aussi par son œuvre de justice et de sanctification, qu'il perfectionne en nous, si nous demeurons dans la foi fondée et ferme. Commentaire de l'éditeur du site, plus loin sur la controverse des œuvres à travers le christianisme. Les prêtres argumentaient contre la capacité du Christ à changer un homme pour le rendre saint, parce qu'ils supposaient avoir été sauvés par la grâce, simplement en raison de leur croyance que le Christ est le Fils de Dieu, du baptême, de la communion, etc. Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus par les œuvres, si c'était le cas, la grâce ne serait plus la grâce. Rome 11 Si ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, F2:8-9. C'est la foi et la grâce qui sauvent. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce résultant de notre foi en Jésus, tout à fait vrai. Mais des esclaves de la dépravation tordent la grâce pour la rendre instantanément complète et justifier le fait de ne rien faire, même se repentir. Selon Paul, la grâce enseigne ce qu'il faut renier et comment vivre d'une manière pieuse conduisant à la pureté. Titus 2:11-14 Ces faux prophètes blanchis ont l'audace de prétendre que la croix et la repentance sont des œuvres, au-delà du ridicule, ils vous disent que si vous faites quoi que ce soit, vous perdrez votre salut en retombant sous la loi. C'est une déformation malveillante de la vérité, imaginée par des hommes paresseux et mauvais, dépourvus de tout sens de la piété. Les œuvres sans la foi en Christ ne comptent pour rien auprès de Dieu. Mais les œuvres animées par la foi en Christ sont essentielles. Paul a dit « J'ai déclaré qu'il devait se repentir, se tourner vers Dieu et faire des œuvres dignes de la repentance. » Actes 26:20 La croix n'est que l'obéissance, et ceux qui s'y opposent vont à la destruction, car leur Dieu c'est leur ventre. Phil 3:19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient, et ils tremblent, mais veux-tu savoir, ô homme insensé, que la foi sans les œuvres est morte. James 19:20 Paul encore dit, continuez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2:12 Paul encore dit, la grâce produit un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Titus 2:14 Jésus a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Luc 13:3 La repentance demande un effort de ta part. Et tout ce que j'aime, je les reprends et je les châtie, sois donc zélé et repens-toi. Rev 3:19 Zélé signifie désir ardent et ensausiasmi. Jésus a dit encore, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Matthieu 11:29 Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc 9:23 Jésus a dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rev 3:2-3 Jésus veut des œuvres parfaites. Jésus a dit, cessez de peiner, de faire et de produire pour la nourriture qui périt et se décompose, mais efforcez-vous, travaillez et produisez plutôt pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. John 6:27 Jacques a dit, vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. James 2:24 Ainsi les œuvres sont essentielles pour réaliser la justice, la pureté, le salut et le royaume, qui nous sont donnés par la foi et la grâce. Paul encore, j'ai déclaré qu'il devait se repentir, se tourner vers Dieu, et faire des œuvres dignes de la repentance. Actes 26:20 La dispute entre Samuel Fiché et le prêtre au sujet des bonnes œuvres, ainsi que les réflexions injustifiées des prêtres à leur égard, se prolongèrent encore quelque temps. Entre-temps, les bancs étaient brisés par la foule et la pression du peuple, causant de grands dégâts à leur siège, à tel point que le lendemain, une réunion fut fixée dans une pièce assez grande de leur école, où ils ne pourraient pas causer de tels dommages, le cas échéant. À l'école, les prêtres se rassemblèrent de nouveau, Thomas Danson était encore le chef. Nous commençâmes à discuter des mêmes sujets que la veille, au sujet du Christ et de sa lumière, et de l'œuvre de la grâce au-dedans, ou dans les hommes, afin d'accomplir la justification et le salut de ceux qui croient et lui obéissent véritablement dans sa lumière, qu'il a donnée à tout homme. Je parlais de notre Seigneur Jésus-Christ, et j'expliquais quelques matières graves et essentielles relatives au salut, selon les saintes Écritures, afin de décharger ma conscience envers le peuple. Peu après que j'eus commencé, les prêtres parurent impatients que je finisse et encouragèrent quelques-uns de leurs rudes fidèles à faire un bruit fort et confus. Le bruit était si fort que je fus contraint de parler très haut pour être entendu encore un peu, désirant vivement avoir l'occasion de décharger loyalement ma conscience. Mais les opposants n'étaient pas aussi civilisés, et les prêtres ne firent pas taire leurs partisans, ce qui eût été la chose civilisée à faire. J'ai souvent observé, dans des disputes avec nombre de prêtres, que lorsqu'ils étaient poussés à rester sur le sujet débattu, et s'ils avaient perdu plusieurs points de controverse, ils utilisent ce stratagème consistant à soulever un bruit et un vacarme confus parmi leurs auditeurs, afin d'empêcher la vérité d'être entendue et de se cacher pour ne pas être démasqué, traitement qui est un piètre procédé de tromperie digne d'écolier. Les persécuteurs envoyaient autrefois des soldats avec leurs tambours dans nos assemblées religieuses pour faire un bruit hideux afin que nous ne puissions pas être entendus par le peuple, soit en prêchant l'Évangile, soit dans la prière publique et fervente au Dieu Tout-Puissant, au nom et dans l'esprit de son cher Fils Jésus-Christ. Cependant, nous savions que le Seigneur nous entendait souvent, pour notre consolation et grand encouragement. Lorsque nous étions opposés et environnés des plus grands bruits et tumultes de nos adversaires et persécuteurs, ils ne pouvaient jamais fermer l'oreille du Tout-Puissant, qui est toujours ouverte aux prières des justes, mais pour revenir au récit de notre traitement à l'école. Tandis que la compagnie grossière faisait du bruit pour m'empêcher d'être entendu, notre ami Samuel Fiché essaya de faire taire le peuple afin d'être entendu, utilisant les paroles de Job « Permettez-moi que je parle, et après que j'aurai parlé, moquez-vous encore ». Parfois, lui et nous autres obtenions quelques instants de silence et nous étions entendus. Nous étions assurés, avec confiance, de la réponse du Seigneur et de la vérité qui était avec nous. Et puisque nos efforts sincères visaient à découvrir et à faire avancer la vérité, nous étions plus tranquilles et consolés en nos esprits. Tandis que nos adversaires, les prêtres, demeuraient mal à l'aise, conservant leurs préjugés et leur inimitié contre nous, et contre notre témoignage de la vérité en vie et en puissance. Thomas Danson publia ensuite un livre en vue pour nous reprocher faussement intitulé « La folie des Quakers rendue manifeste à tous les hommes », dans lequel il nous donna l'occasion de mettre au jour l'ignorance et l'envie qui étaient les siennes et celles de ses frères, comme elles sont clairement montrées et décelées dans nos réponses, l'une intitulée « La voix de la sagesse élevée contre la folie de l'Antéchrist » par George Whitehead, imprimée en 1659, et plus spécialement dans l'ample réponse de Samuel Fiché à Thomas Danson et à d'autres. Ayant eu avis que Henry Johnson, prêtre d'Emmes dans le Norfolk, avait prêché ou clamé publiquement contre le peuple appelé Quake et contre leurs principes, j'écrivis un billet et le lui envoyai par notre ami Richard Sanden. Dans ce billet, je demandais une réunion publique avec lui dans leur église paroissiale, ainsi nommée, devant son auditoire, afin que nous puissions avoir une dispute loyale ou un examen de ses points ou matières sur lesquelles nous différions. Il consentit à cette réunion dans un écrit qu'il me renvoya, y étaient joint 17 questions à discuter. Il pensa pouvoir borner nos opinions et persuasions selon ses termes, en s'attendant à ce que je ne réponde que oui ou non à chaque question au moment de la discussion publique. Comme nous n'eûmes pas l'occasion de discuter ou d'examiner toutes ces questions lors de la première réunion que nous eûmes, et comme il ne souhaitait pas prolonger la dispute à ce moment-là, je jugeai convenable d'insérer d'abord toutes ces questions avec des réponses particulières, puis de donner quelques récits des principales parties de notre discussion. Voici les questions et réponses 1. Si Jésus-Christ a un corps glorifié dans les cieux, distant et distinct des corps de ses saints ici-bas, réponse. Oui, comme un corps glorifié et distinct des corps naturels ou terrestres, et le ciel de la terre. 2. Si le sang que Jésus-Christ a versé à Jérusalem est le sang par lequel les croyants sont justifiés. Ou bien s'il meurt dans les hommes pour leur justification, réponse. La sanctification, le pardon des péchés, la purification du péché et la justification sont parfois attribués au sang du Christ, et à l'Esprit de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel accomplit, opère et manifeste les mêmes choses en tous les vrais croyants. Mais voici deux questions posées pour une seule. La première ne paraît pas être une question scripturaire ni appropriée, où l'Écriture emploie-t-elle ces mots, à savoir, le sang que Jésus-Christ a versé, vu que ce fut par des mains impies qu'il fut mis à mort, et que son sang fut versé sur la croix. Pourtant, comme le sang de Jésus-Christ est mis pour, ou représente sa vie qu'il a déposée, et même l'offrande et le sacrifice de lui-même à Jérusalem, c'était un sacrifice très agréable, d'une bonne odeur devant Dieu pour l'humanité, eu égard à sa grande dignité et à son obéissance, lui qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix et s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes, pour un témoignage en son temps. Et son sacrifice, sa médiation et son intercession ont ouvert une porte de miséricorde par laquelle l'humanité peut entrer, au moyen d'une vraie repentance envers Dieu et de la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont opérées dans l'homme qui obéit à cet appel, uniquement par sa grâce et son bon esprit, pour la sanctification et la justification, au nom et dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, de la part de Dieu, nous a été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. Le grand amour de Dieu envers l'humanité s'est manifesté en son cher Fils Jésus-Christ, et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant point leurs offenses. La seconde partie de la deuxième question est sans fondement et perverse. Nous ne connaissons ni Écriture ni ministre parmi nous qui affirme que le Christ meurt dans les hommes pour leur justification, mais plutôt qu'une fois il est mort, CAD, pour nos péchés, et qu'il est ressuscité pour notre justification, et qu'il vit à jamais pour intercéder, et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Jésus-Christ vit et règne à jamais dans la puissance et la gloire du Père, bien que certains soient dits crucifiés de nouveau pour eux-mêmes le Seigneur de la vie et foulés aux pieds le Fils de Dieu, ce qui ne peut être pris proprement au sens littéral, mais par leur mépris de la vérité et par l'outrage fait à son esprit de grâce, comme l'ont fait certains apostats malveillants non pour leur justification, mais pour leur condamnation. Ce que l'un de nous, ou parmi nous, a pu dire ou écrire au sujet de la semence ou de la parole que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, sème dans les cœurs des hommes, et du fait que celle-ci est opprimée ou souffre en certains, ou qu'elle est étouffée par les soucis du monde et l'amour des richesses en d'autres, ces expressions et beaucoup d'autres semblables ont pu être utilisées selon les paraboles et les allégories que Jésus-Christ lui-même a prononcées relatives au royaume des cieux, à la parole ou semence de vie de grâce qu'il sème dans les cœurs des hommes. La semence immortelle, la parole immortelle, est d'un être immortel, bien que beaucoup soient morts à son égard dans leurs offenses et leurs péchés. 3. Si ce corps individuel qui est le nôtre sera ressuscité au dernier jour, réponse. Cela paraît une question non scripturaire, tout autant qu'ignorante et douteuse, sinon antiscripturaire. S'il entend par là notre corps naturel, numériquement identique de chair, de sang et d'os, le témoignage de l'apôtre Paul peut à la fois répondre et réfuter sa question, le corps de la résurrection n'étant pas naturel, mais spirituel, non de chair et de sang, car ceux-ci ne peuvent hériter le royaume de Dieu. 1 Cor 15, 49-50. Et comment ce corps terrestre qui est le nôtre serait-il individuel, s'il peut être divisé et séparé en morceaux et en petites particules, ou dissous en poussière, ou dans la terre, ou dans la mer, ou dans le feu, en fumée ou en air? Néanmoins, Dieu donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence son propre corps, oui, à chaque âme son corps propre. 4. Si des saints, avant la mort, sont sans péché, réponse. Oui, ces saints que le Christ sanctifie et purifie de tout péché, comme il le fait pour tous les saints véritables et constants. 5. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes ou substances distinctes, réponse. Nous ne les trouvons pas ainsi désignés, comme trois personnes distinctes dans la Sainte Écriture, mais plutôt comme trois témoins, ou trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un seul esprit. 1 John 5, 6, 8, 6. Si le baptême d'eau est une ordonnance de l'Évangile, réponse. Non, il était typique, et plutôt légal, étant le ministère de Jean-Baptiste plus qu'une ordonnance de l'Évangile, bien qu'il ait parfois été toléré ou admis par condescendance dans l'enfance de l'Église. Mais si par baptême d'eau il entendait l'aspersion des enfants, ce n'est pas un véritable baptême, ni une ordonnance de l'Évangile, c'est plutôt du rentrisme et une tradition de l'Église catholique que quelque ordonnance de l'Évangile. 7. Si les Écritures sont la règle de votre foi et de votre vie, ou l'Esprit, réponse. Nous ne trouvons pas que les Écritures se nomment elles-mêmes la règle de la foi et de la vie, mais elles nous renvoient au Saint-Esprit pour être notre guide en toute vérité, et elles rendent témoignage du Christ comme étant le chemin vers le Père, la voie, la vérité et la vie. Nous estimons donc véritablement les Saintes Écritures comme une règle ou un guide subordonné, nous dirigeant vers celui qui est le guide principal et suprême, la voie ou la règle de la foi et de la vie, et nous reconnaissons sincèrement que les Saintes Écritures contiennent beaucoup de règles, de préceptes et de doctrines divines, relatifs à notre très sainte foi et à notre vie. 8. Si les enfants des ténèbres ont la lumière du Christ en eux, réponse. Ils ont en eux quelques degrés de lumière venant du Christ, bien qu'elle brille dans les ténèbres, comme une lumière qui brille dans un lieu obscur, autrement ils ne pourraient venir ni être transférés hors des ténèbres, ils doivent croire en la lumière afin de devenir enfants de la lumière, et c'est pourquoi le Christ exhortait, « Croyez en la lumière, afin que vous soyez enfants de la lumière. » 9. Si ce qui est un péché chez un saint est le même péché chez un homme méchant, réponse. L'acte du péché et toute transgression de la loi du Christ est péché en fait, en quiconque elle se produit, mais pour les saints ou sanctifiés en Christ qui demeurent en lui, il ne permet pas au péché d'habiter en eux, ni ne leur permet de le commettre, quiconque demeure en lui ne pêche point. 10. S'il y a quelque différence morale, quant au jour de sabbat sous l'Évangile, réponse. Non pas comme c'était sous la loi quant à la question des sabbats, qui était une ombre du vrai repos d'Israël et qui prennent fin en Christ, qui est le repos éternel de l'âme fidèle et l'accomplissement du sabbat. Toutefois, il y a, et il peut y avoir une raison religieuse à établir occasionnellement une différence de jour sous l'Évangile, comme lorsqu'un jour est ou peut être consacré au Seigneur, surtout des jours de culte religieux, et particulièrement comme cela a été et est le cas le premier jour de la semaine parmi les apôtres et l'Église primitive. L'apôtre Paul était délicat en ce cas, admettant qu'un homme estime et considère un jour plus qu'un autre, et qu'un autre tient tous les jours pour semblables, et à propos des aliments, et qu'il ne faut pas se juger les uns les autres, mais que chacun, dit-il, soit pleinement convaincu dans sa propre pensée, pourtant il condamne les coutumes judaïques et l'observance des jours, des aliments et des boissons. Commentaire de l'éditeur du site. Bien que l'observance d'un jour soit une affaire de conscience individuelle, dans laquelle on doit être pleinement convaincu. Pour un groupe de croyants, observer un jour spécial est assurément mauvais, et une forme de religion que Paul condamne. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de Dieu, comment se fait-il que vous retourniez encore aux éléments faibles et misérables, auxquels vous voulez de nouveau être asservis, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains pour vous, de peur que je n'aie travaillé en vain à votre égard. Galates 4, 9, 11. Et si le responsable de votre Église dit que vous devez observer certains jours ou certains aliments, vous écoutez un faux prophète, comme Paul le dit, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des jours de sabbat, Col 2, 16. Ainsi, un individu peut choisir de célébrer certains jours, mais l'Église, comme politique ou règle, ne le peut pas, car c'est une forme de loi. 11. S'il est du devoir des chrétiens de prendre la scène du Seigneur avec du pain et du vin, réponse. Dans cette question, l'homme évite la question en imposant et en présupposant que le pain et le vin, tels que servis par le prêtre, sont la scène du Seigneur, ce que je dois nier jusqu'à ce que cela soit prouvé par l'Écriture. Car ce qui est appelé proprement la scène du Seigneur, c'était lorsque lui et ses disciples mangeaient la Pâque. Luc 22, 15-20. Il n'y a maintenant aucune nécessité pour aucun de nous de célébrer ce repas, car ce repas a été célébré et accompli par le Christ. Et la Pâque, ainsi que le pain et le vin extérieur ou la coupe, étaient des types et des ombres des choses à venir dans le corps de Jésus-Christ, et en lui, pour ses vrais croyants et disciples, qui deviennent participants du Christ, la substance à entendre frapper, ouvre la porte et le reçoivent afin qu'ils soupent avec eux, et eux avec lui. Rêve 3, 20, 12. Si une mission extérieure, par imposition des mains, avec jeûne et prière, les ordonne eux-mêmes à l'œuvre du ministère, et si cela est conforme à l'ordre de l'Évangile, réponse. Une mission extérieure par ses moyens, sans appel divin intérieur, n'est pas une justification suffisante pour que quiconque soit ministre ou pasteur du Christ, et ils n'ont pas non plus de fondement divin pour mandater des ministres par imposition des mains, jeûne ou prière, qui n'ont aucun appel divin ni aucune autorité donnée par le Christ à cette fin, mais ceux qui concluent que ces pratiques sont leur appel, prétendent aussi que la révélation et la prophétie ont depuis longtemps cessé. 13. Si les Écritures sont le moyen ordinaire de produire la foi dans les cœurs des hommes, réponse, non. A. Passant l'aide du Saint-Esprit et de la lumière, pour en donner la véritable intelligence. B. Pas le moyen ordinaire de produire la foi dans les cœurs des hommes dans un sens limité ou universel, comme si nul ne pouvait avoir la foi sans elle, car Dieu peut faire usage, et a fait usage, d'autres moyens que les Écritures, comme en prêchant l'Évangile en esprit et en puissance, un par ses œuvres dans la création. 2. Principalement, par la parole de foi, non l'Écriture dans le cœur des hommes, qui est la cause efficace qui engendre et opère la foi en eux, étant la foi de l'opération de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Néanmoins, lorsque les saintes Écritures sont ouvertes et appliquées par l'Esprit, elles aident souvent à produire la foi dans le cœur de beaucoup d'hommes. 14. Si les Écritures ont besoin d'être interprétées et conciliées. Réponse. Oui, pour la première partie. Beaucoup de passages sont mystérieux, allégoriques, paraboliques et prophétiques, et doivent être interprétés et ouverts par l'esprit d'où ils sont sortis, mais non par la sagesse humaine ou charnelle de l'homme, ni par une interprétation particulière, car l'homme naturel ne reçoit pas et ne peut connaître les choses de l'esprit de Dieu parce qu'elles se discernent spirituellement. Les saintes Écritures n'ont pas besoin d'être conciliées en elles-mêmes, car elles sont harmonieuses, s'accordent, et l'Écriture ne peut être anéantie. 15. Si la nature divine de Jésus-Christ est unie au corps des croyants comme elle l'était à son propre corps personnel en Judée, réponse. Non, bien que les vrais croyants, qui sont les membres du Christ, soient spirituellement unis à lui, membres de son corps, et rendus participants de sa nature divine, cependant, pas avec la même plénitude que celle qui est en lui qui est la tête, en qui il a plu au Père que toute la plénitude demeura. 16. Si le pape ou Rome est l'antéchrist, et la papauté antichrétienne, réponse. Oui, au 2:17. Si George Whitehead prêtera le serment d'abjuration et renoncera au pape, réponse. George Whitehead n'a à présent aucune renonciation ni aucun désaveu du pape ou de la papauté à faire, n'ayant jamais reconnu ni l'un ni l'autre, mais ayant toujours absolument nié et désavoué les deux. Cependant, George Whitehead peut ne pas jurer une telle renonciation, parce que, par motif de conscience, il ne peut jurer du tout, ni par ce serment d'abjuration CAD. Pour renoncer au pape, ni par aucun autre serment, de peur de tomber sous la condamnation, Matt 5, 33-37, James 5, 12. Ainsi ai-je répondu, selon ma conscience, aux questions précédentes, certaines plus longuement pour l'information d'autrui qu'elles ne le méritaient, et plus particulièrement que nous n'aurions eu alors le temps d'en débattre, car nous ne pûmes en parcourir que quelques-unes, et Henry Johnson eut assez de disputes sur celles que nous discutâmes. Suis un bref compte-rendu de notre entretien sur quelques-unes des questions précédentes. Nous nous rencontrâmes dans leur église paroissiale, comme on l'appelle, le 2 jour du premier mois 1659, et un grand auditoire était présent, parmi lequel se trouvaient plusieurs de nos amis appelés Quakers. Henry Johnson avait entamé ses interrogations aux questions, déjà citées et auxquelles il a été répondu. À sa première question, je donnais une réponse directe, car le corps glorieux du Christ est au ciel, selon la réponse déjà donnée. Comme ma première réponse était directe et claire, selon l'Écriture, il ne pouvait tirer aucun avantage contre nous, et il accusa donc notre ami Richard Sandé d'avoir déclaré que le Christ n'avait pas de corps, alors que le contraire avait été prouvé et montré par Richard Sandé, confessant que le Christ a un corps glorieux, CAD. Propre et particulier au Christ lui-même, selon le langage de l'Écriture. Il mit en question les paroles de Henry Johnson disant que le corps du Christ au ciel serait un corps humain, consistant en chair et en os. Ce fut le mot « humain », attribué au corps glorieux du Christ au ciel, qui fut contesté par Richard Sandé et d'autres. Ce terme n'est pas scripturaire, et bien qu'il s'applique au genre humain, il est relatif à l'homme, en relation avec la partie terrestre, comme Omanus se rapporte à Humus le sol ou la terre d'où l'homme, le premier Adam fut pris et formé. Et c'est pourquoi ce terme parut trop bas pour être attribué au second Adam, ou à son corps glorieux, lui qui est le Seigneur venu du ciel, non un homme terrestre, mais un homme céleste tant moralement qu'essentiellement. Toutefois, nous aurions été satisfaits d'une preuve scripturaire que le Christ est un corps humain dans son état céleste glorifié. Bien que notre adversaire promettît de le prouver par l'Écriture, il ne le put. Au lieu de cela, il ne cessa de répéter son assertion de la même chose ou du même terme contesté. Et lorsque cela fut insuffisant, alors il recourut à la logique avec des syllogismes, employant des expressions telles que celle-ci, à savoir « le Christ est au ciel dans notre nature humaine qu'il a prise, de notre chair et de notre sang », etc. Question, mais est-il maintenant au ciel de la même manière qu'il était sur la terre au jour de sa chair, lorsqu'il prit sur lui la forme d'un serviteur et fut rendu semblable à nous en toutes choses, le péché excepté, il ajouta cette question pour une considération plus approfondie. Je suppose qu'aucun vrai chrétien n'osera affirmer que le Christ, tel qu'il est maintenant au ciel et dans la gloire, est encore semblable à nous en toutes choses, tant dans son corps glorieux, sa matière, sa manière et sa forme, le péché seulement excepté. Car si quelqu'un l'affirmait, il s'ensuivrait qu'il pourrait tout aussi bien dire que nous sommes déjà maintenant si semblables à Jésus-Christ dans son état glorifié au ciel, et que nos corps maintenant sur la terre sont si semblables à son corps glorieux au ciel, qu'ils n'ont pas besoin d'être changés ou rendus conformes à son corps glorieux, Phil. 3.21. Car leur corps serait déjà semblable à son corps glorieux, s'il est semblable à nous en toutes choses, excepté le péché, lui, n'a pas le péché. Hébreux 17.4.15. Assurément, aucun vrai chrétien ici-bas ne peut entretenir de telles pensées élevées de lui-même, dans son humble corps terrestre, au point de se croire très semblable au Christ et à son corps glorieux. Mais soyons plutôt tous humbles, renonçant à nous-mêmes, et petits à nos propres yeux, exaltons le Christ au-dessus de nous-mêmes, et laissons-lui la gloire et la prééminence en toutes choses, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Travaillons tous, nous qui professons le Christ et le christianisme, à être véritablement conformes à son exemple d'humilité, d'innocence et de vérité lorsqu'il était sur la terre, afin que nous soyons avec lui, là où il est, et que nous voyions sa gloire au ciel. Je me suis quelque peu étendu et ai argumenté ici sur ce point plus qu'il n'était requis dans notre discussion mentionnée, ou alors nécessaire, car la première question ne fut guère insistée par aucune des parties, ayant été équitablement résolue d'abord, bien que le pasteur fût désireux de montrer quelque habileté en logique lorsqu'il argumenta de cette manière. Argument du prêtre. Si le Christ avait un corps humain de chair et d'os lorsqu'il était sur la terre, alors il a un corps humain au ciel, consistant en chair et en os, mais puisque le Christ avait un tel corps sur la terre, donc preuve. La première proposition, ou majeure de l'argument, étant générale, est susceptible d'une contestation légitime, c'est-à-dire qu'elle suppose comme allant de soi que tout ce que le Christ avait lorsqu'il était sur la terre, il doit nécessairement l'avoir encore maintenant au ciel. En prolongeant cette logique fautive, il devrait alors avoir une nourriture naturelle, des aliments, boissons et vêtements au ciel, comme il en avait sur la terre, et parfois souffrir la faim au ciel comme il le faisait sur la terre. Mais nous n'avons aucune raison de le croire le concernant, maintenant dans son état glorifié. Il est bien au-dessus de toutes ses nécessités humaines, de ses faiblesses et de cet état de souffrance. Comme la logique des prêtres manquait d'une preuve scripturaire, on y prêta peu d'attention. À sa quatrième question, il exposa son opinion et sa doctrine, à savoir qu'aucun des saints n'est affranchi du péché tant qu'il est sur la terre. Toutefois, les saints sont affranchis de la culpabilité du péché. Ainsi leur logique ridicule dit que le Christ a rendu le péché plus facile en retirant la contrainte de la loi, nous permettant de pécher sans peine, et nous permettant d'être encore plus injustes que les pharisiens. Réponse : cette doctrine est expressément contraire à la doctrine de l'apôtre, mais maintenant, affranchi du péché et devenu serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Et il est tout à fait incohérent d'enseigner que des hommes peuvent être libres de la culpabilité du péché alors qu'ils demeurent dans le péché ou commettent le péché, ou de leur dire qu'ils ne peuvent être affranchis du péché durant la vie, et pourtant qu'ils ne seraient pas coupables de péché. Ce n'est pas une meilleure doctrine que de leur dire qu'un homme qui est porté au vol, ou qui vole souvent les biens de son voisin, n'est pas coupable de vol, ou n'est pas un voleur, bien qu'il vole effectivement. Leur doctrine est misérable, c'est utiliser un mortier mal détrempé qui s'effritera, faisant s'écrouler le bâtiment pour enduire et apaiser les pécheurs dans leur péché, et pour fortifier les mains des malfaiteurs, comme le faisaient les faux prophètes, afin qu'ils ne se repentent pas et n'abandonnent pas leur péché. Le prêtre, en opposition à ma réponse concernant l'affranchissement du péché, dit que les croyants mentionnés en Hébreux 12, 22, 23, comme étant venus aux mentions, à l'Assemblée générale et à l'Église des premiers-nés, et aux esprits des justes rendus parfaits, ne l'étaient pas tandis qu'ils étaient sur la terre, mais au ciel et à la résurrection. Cette logique revenait à dire que Paul avait écrit aux Hébreux croyants après qu'ils étaient morts, et n'étaient plus sur la terre, mais après leur départ au ciel. Le prêtre déraisonnait sur ce point et contredisait l'Écriture. Et de plus, pour s'opposer à la doctrine de la perfection, de la sanctification, ou de la liberté du péché en cette vie, le prêtre objecta que notre prédication selon laquelle les hommes peuvent atteindre la perfection avant la mort rend la médiation du Christ inutile. Mais en cela aussi il se trompait, car Christ Jésus par sa médiation et son intercession a entrepris, dans un grand amour et une grande miséricorde, d'être notre avocat auprès du Père pour nous réconcilier avec Dieu, et afin d'obtenir miséricorde, réconciliation et paix pour le genre humain, il a intercédé tout autant qu'il a souffert pour le transgresseur, et aussi il paraît en la présence de Dieu pour nous, faisant intercession pour les saints selon la volonté de Dieu, et cela pour leur préservation et leur aide, afin. Comme il dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles pas ». Par conséquent, que les vrais croyants en Christ puissent parvenir, par sa puissance, son secours et son assistance, même en cette vie, à une sanctification parfaite et à la liberté du péché, est si loin de rendre sa médiation inutile, que cela la rend au contraire très utile pour leur sûreté et leur aide, contre les tentations de Satan et du péché. La huitième question était leur principale insistance, et concernait la controverse de la lumière au-dedans de l'homme. Sur cette question, Henry Johnson affirma que les enfants des ténèbres, ou les méchants, tels que les ivrognes, les jureurs, etc., n'ont aucune lumière spirituelle en eux, citant Ésaïe 8, 20. En réponse à cela, j'insistais sur Jean 1, 9, c'était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, ce qui est dit et attribué à Christ la parole éternelle, le Fils de Dieu, comme étant cette vraie lumière. Et aussi le verset 4, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, cette vie et cette lumière ne sont donc pas naturelles, mais spirituelles et divines. C'était la vie qui était en lui, qui était la lumière de tous les hommes. À quoi le prêtre répondit que Christ éclaire tout homme, comme en Jean 1, 9, mais ce n'est pas par la lumière de la grâce mais par une lumière naturelle, et que la vie de Christ, ou ce qui était en lui, qui est la lumière des hommes, n'est pas la lumière de la grâce mais une lumière naturelle. Un autre prêtre, alors présent pour l'aider, imposa de même son opinion, qui était que les méchants ont la lumière de la conscience, mais n'ont en eux aucune lumière salvatrice spirituelle. Jusqu'ici ces deux ministres, alors tenus pour prêtres, imposèrent leurs propres opinions contre la lumière, et aussi contrairement au témoignage des saintes Écritures, et au lieu de preuves scripturaires, ils déclarèrent que la lumière en tout homme n'est que naturelle, une lumière de conscience, et non spirituelle, ni la lumière de la grâce, etc. Henry John revint bientôt encore à sa logique, et syllogisa ainsi à partir d'Ésaïe 8:20 ce qui suit, argument. S'il y a des hommes ou des personnes en qui il n'y a aucune lumière, alors il y a des hommes qui n'ont en eux aucune lumière spirituelle, parce qu'il y a des hommes en qui il n'y a aucune lumière, même la lumière qui éclaire tous les hommes venant dans le monde. Je retournai son argument contre lui-même, de cette manière, si comme le prêtre l'a dit, il y a des hommes en qui il n'y a aucune lumière, alors il y a des hommes en qui il n'y a aucune lumière naturelle, ce qui contredit manifestement ce qu'il a affirmé, à savoir qu'il y a une lumière naturelle en tout homme, et son défenseur, l'autre prêtre, a confessé que les méchants ont en eux la lumière de la conscience. Donc, par leur propre aveu, il y a quelque lumière en tout homme, de sorte que l'argument tiré du fait qu'il n'y a pas de lumière en eux tombe de lui-même, du fait de leur confession contraire. Et quant à ce passage d'Ésaïe 8:20, à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. Cela n'apparaît pas ainsi selon le texte hébreu, comme je leur dis qu'ils pouvaient le voir en marge de nombreuses Bibles. Hébreu, pas d'aurore au lieu de pas de lumière, en quoi il y a une différence manifeste entre pas de lumière et pas d'aurore, et ils n'affirmeraient pas qu'il n'y a pas de lumière avant l'aurore, ni dans la nuit, dans la création, et pour appliquer la chose en un sens spirituel, concernant la parole ou lumière divine dans l'homme, celle-ci apparaît et brille graduellement jusqu'à ce que les ténèbres soient dissipées. La même parole brille comme une lumière dans un lieu obscur, jusque dans le cœur des hommes, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève en eux. C'est le sentier du juste qui obéit et marche dans la lumière, et qui brille de plus en plus jusqu'au plein jour. David estimait cette parole divine, la lumière, comme une lanterne à ses pieds et une lumière sur son sentier, et assurément l'usage d'une lanterne est avant l'aurore, principalement dans la nuit. Après que j'eus clairement mis en évidence la contradiction du prêtre, à partir de sa logique ou de l'argument cité ci-dessus, et insisté sur la note hébraïque d'Ésaïe 8:20, pas d'aurore. Le dit Henry Johnson et son assistant cessèrent bientôt de disputer et se retirèrent, l'assemblée demeurant paisible, et généralement sérieux et attentive à la conclusion, à tel point que j'eus une bonne occasion de leur démontrer la vérité, le Seigneur se tenant auprès de moi et m'assistant par sa puissance et sa présence divine, et par le témoignage de son évangile, gloire à son nom digne et excellent à jamais. Ainsi nous, moi et nos amis, et l'assemblée, nous nous séparâmes tranquillement, sans aucune réflexion ni parole de mépris contre nous, ni contre aucun de nous, ni contre nos principes, du moins autant que je m'en souvienne. Du clergé presbytérien ou indépendant fussent montés si haut en ces jours-là, surtout les prêtres de paroisse, qu'ils nous permettent à peine de rendre témoignage à la vérité ou de prêcher l'évangile de Christ selon nos dons, dans leurs assemblées publiques ou dans les lieux appelés églises paroissiales, sans emprisonnement ou sans être violemment traînés dehors ou poussés hors des portes, comme il nous est souvent arrivé d'être traités si incivilement et si durement par leur instigation en excitant le peuple contre nous, bien que nous l'ayons. Toutefois, nous ne permettions pas qu'aucune violence fût exercée contre aucun d'eux dans nos assemblées, nous les traitions civilement, répondions sobrement à leurs objections, et avec douceur nous nous efforcions d'éclairer leur entendement et de rectifier leurs erreurs au sujet de nous et de nos principes, trouvant que beaucoup d'entre eux étaient ignorants et avaient repris des reproches contre nous d'après des rapports d'autrui, lesquels étaient faux et malveillants. J'eus une réunion chez Stephen Hart, près de la cour du palais à Westminster, qui était tellement bondée qu'elle contenait difficilement tous nos amis et d'autres personnes de toutes sortes et conditions. La réunion demeura paisible jusqu'à près de la fin, et le peuple parut généralement bien satisfait du témoignage clair et simple que le Seigneur me permit de porter. Enfin un prêtre, un certain Thomas Smith de Cambridge, gardien de la bibliothèque de l'université, se leva et fit opposition, avec une accusation contre les Quakers, comme étant des hérétiques, comme introduisant des hérésies damnables, allant jusqu'à renier le Seigneur qui les a rachetés, appliquant et détournant cette écriture 2 Pierre 2:1. Mais il ne put produire aucune preuve, ni même apparence de preuve, contre les Quakers, ni contre aucun de nous, ni d'une telle hérésie ou d'un tel reniement du Seigneur qui nous a rachetés et lui qui s'est donné en rançon pour nous, et pour tous les hommes, ni par notre doctrine, ni par notre conduite. Au contraire, nous étions, et sommes encore, profondément tenus de le confesser tant en doctrine qu'en pratique, pour son grand amour en se donnant pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et pour sa lumière et sa grâce donnée à cette fin, afin que nous puissions recevoir et expérimenter cette rédemption par son sang, qu'il a obtenu pour nous. C'est pourquoi, béni soit son nom glorieux, nous sommes loin de renier le Seigneur qui nous a rachetés. Le dit prêtre, étant plus assuré et plus bruyant dans son accusation que dans sa preuve, et puisqu'il y a reniement de Christ le Seigneur en pratique aussi bien qu'en doctrine, je retournai contre le prêtre ce même passage de l'Écriture de Pierre 2, qu'il avait apporté contre moi et mes amis appelés Quakers, en lisant au peuple plusieurs versets de cette même Écriture, pour montrer quels sont les docteurs qui renient le Seigneur qui les a rachetés, dont les voies sont pernicieuses, verset 2, et plusieurs suivront leur voie de perdition. Comme j'opposais ces Écritures, 2 Pierre 2, aux pratiques cupides des prêtres, qui sont contre Christ et sa doctrine, et par conséquent un reniement de lui comme de leur Seigneur et Maître, et aussi à leur doctrine par laquelle ils enseignent qu'aucun homme ne peut être délivré du péché en cette vie, de sorte qu'ils ne peuvent cesser de pécher tant qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas ou ne doivent pas en être délivrés en cette vie. Par là, eux aussi renient le Seigneur qui les a rachetés, en reniant la fin et le dessein de son acquisition ou de sa rédemption du genre. Voir 1 Jean 3, 8, Tite 2, 14. Ignorer ses commandements de cesser de pécher, sans même admettre que cela soit possible, c'est le renier comme Seigneur et Maître. Jésus lui-même a dit que si vous péchez, vous êtes esclaves du péché. Jean 8, 34. Si vous continuez à pécher, le péché est votre maître, et le Seigneur ne peut pas être votre Seigneur ou maître parce que, comme le Seigneur l'a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. De la parole du Seigneur au-dedans, souviens-toi, toute personne qui pêche le renie comme Seigneur et Maître. Ce n'est pas ce que disent vos lèvres, c'est votre conduite qui montre si Jésus est votre Seigneur ou non. Je dis que, comme j'opposais alors les Écritures citées aux pratiques cupides des prêtres, et à leur fait de ne pas cesser de pécher, mais plutôt d'argumenter en faveur du péché en cette vie, notre dispute prit bientôt fin, le prêtre en avait assez. Il avait injustement accusé les Quakers d'hérésie damnable, aussi injustement que les papistes persécuteurs taxaient ordinairement les martyrs d'hérétiques lorsqu'ils voulaient les assassiner et les détruire. Mais la controverse ne s'arrêta pas là, le gardien de la bibliothèque essaya plus tard encore sa force et son habileté contre nous. Durant le même été de 1659, le Seigneur m'ordonna de visiter les réunions des amis dans le Cambridgeshire et les régions adjacentes autour de Cambridge. J'eus plusieurs réunions, tant le premier jour que d'autres jours, et à une réunion un jour de semaine, le gardien de la bibliothèque vint pour s'opposer à nous, son dessein étant toujours de me prouver hérétique, mais sans meilleur succès que celui qu'il avait eu auparavant à Westminster. Il fit piètre figure, et pourtant il semblait disposé à avoir une autre réunion publique pour disputer de ce point avec moi, ce que je lui accordais volontiers, et il se retira bientôt de notre réunion pour ce moment-là. Moi et un autre ami allâmes voir le maire de Cambridge pour demander la permission d'avoir notre réunion de dispute à la salle de la guilde, soupçonnant que la maison de réunion des amis ne pourrait pas contenir le peuple. Le maire étant un homme modéré et sa femme une amie à nous, après quelques réflexions nous fit savoir qu'il n'osait pas nous laisser la salle de la guilde, de peur que les étudiants ne fissent quelque méfait lorsqu'un grand nombre d'entre eux se rassembleraient. Mais il nous dit que si nous nous réunissions dans notre propre maison de réunion, qui était en face de Sydney College, il enverrait ses officiers pour garder la paix, ou pour veiller à ce qu'elle fût gardée, ce qu'il fit en effet. Le jour de notre réunion pour disputer, vint notre savant antagoniste, Thomas Smith, accompagné d'une grande troupe d'étudiants de plusieurs degrés, bacheliers et maîtres SR, etc. Il reprit encore sa vieille accusation contre nous, d'être des hérétiques, ayant eu le temps d'étudier de nouveaux arguments à l'appui, puis il procéda avec sa logique et ses syllogismes, et je ne cherchais nullement à empêcher son essai de cette manière, étant disposé à l'observer et à voir ce qu'il en ferait, et voici ce qu'il tenta, Smith, un papiste est un hérétique. Puisque les Quakers sont des papistes, les Quakers sont des hérétiques, j'ai Whitehead, je nie la mineure ou la seconde partie de l'argument, c'est-à-dire je nie que nous soyons papistes, Smith. Celui qui refuse de prêter le serment d'abjuration est un papiste, puisque vous refusez de prêter le serment d'abjuration, vous êtes des papistes, j'ai Whitehead. Je m'élève contre la majeure, ou première partie de l'argument, et contre la conséquence qui en est déduite pour les raisons suivantes, Christ nous a commandé de ne point jurer du tout. Matt 5, 34. Et son apôtre Jacques interdit pareillement tout serment, disant « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et votre non non, de peur que vous ne tombiez sous condamnation. » Or, supposez que l'apôtre Jacques fût ici présent pour soutenir cette doctrine contre tout serment, ou contre le fait de prêter quelque serment que ce soit, il devrait refuser le serment d'abjuration, parce que c'est un serment, il devrait obéir à la doctrine de son Seigneur et Maître Jésus-Christ. Alors, selon la manière d'argumenter de cette personne contre moi et les Quakers, il serait accusé d'être papiste et hérétique, car en refusant de jurer du tout, ou de prêter quelque serment que ce soit, il devrait refuser de prêter le serment d'abjuration. Et ainsi l'argument, par conséquent, accuse injustement ou jette le blâme sur Christ et ses saints apôtres, à quoi le prêtre ne put répondre, pour se dégager de l'absurdité et du sophisme de son argument et de sa fausse accusation. Quant à leur doctrine de la Trinité, pour prouver trois personnes séparées dans la divinité, sur quoi il nous interrogea, il argumenta ainsi, que lorsque Christ fut baptisé, une personne, C.A.D. Dieu était au ciel, une autre personne, C.A.D. Son Fils était dans l'eau, et le Saint-Esprit descendant sur lui comme une colombe, donc, etc. Un autre argument était « s'ils sont trois ils, alors ce sont trois personnes, mais ils sont trois ils et donc preuve ». Quelle logique extraordinaire, quelles absurdités ne peut-on pas tirer d'une telle logique? Mais quand il échouait dans ses arguments, au point d'être confondu, quelques étudiants qui se tenaient près de lui lui disaient « laisse ça », par quoi je compris qu'il voulait dire « abandonne cet argument » ou « laisse-le tomber » ou « élude-le » et glisse vers quelque autre point ou argument comme il le fit. Et j'ai trouvé que c'est là l'échappatoire et le subterfuge de beaucoup d'adversaires pour éluder une disqualification loyale du point ou de la question en main, au point que je les ai souvent interpellés pour qu'ils s'en tiennent au point en main et n'éludant pas le sujet ni ne se déplacent vers un autre. Ceci est un bref compte-rendu du discours tenu à cette réunion, quoique bien en deçà de ce qui s'y passa, la matière en question et plusieurs points ayant été plus amplement traités par écrit dans deux livres dont l'un est intitulé « La vérité défendant les Quakes et leurs principes », dans lequel 55 interrogations ou questions proposées par le dit Thomas Smith, qui en était tenu pour l'auteur, reçoivent réponse. La vérité est qu'il paraissait si ignorant de nos principes qu'il semblait nécessaire pour lui de faire une si grande enquête à leur sujet, plus pour sa propre meilleure information que pour notre réfutation. L'autre livre des nôtres, en réponse à lui, est intitulé « La clé de la connaissance, non trouvée dans la bibliothèque de l'Université de Cambridge ». Le dit Thomas Smith se donnait pour très savant ou très versé dans certaines langues orientales, et si je m'en souviens, j'ai vu imprimer quelques vantardises de ce genre. Notre dispute fut menée avec une telle modération que la réunion demeura assez paisible jusqu'à sa fin, et les étudiants furent généralement civils. Nous savions que la vérité avait gagné du terrain à cette réunion, et nous en sortîmes fort à l'aise et consolés en nos esprits, C.A.D., George Fox Gier, et le reste des amis et des personnes amies qui étaient présents avec moi en ce temps-là. En ces jours-là, j'eus beaucoup de bonnes réunions dans la ville de Cambridge, avec un service efficace pour la vérité. Les réunions étaient généralement paisibles. Bien que je m'attendisse à autre chose, les étudiants furent plus civils envers moi que nous ne l'espérions. Beaucoup d'entre eux se tenaient pour entendre la vérité tranquillement, avec grande attention, et je sentais souvent la puissance du Seigneur sur leurs esprits dans nos réunions. Quelque temps après les avoir quittés, j'entendis dire que les amis avaient eu une réunion troublée et que certains d'entre eux avaient été maltraités à leur réunion par les étudiants. Je fus peiné d'apprendre que cela était en partie dû à quelques crêles avec eux, hors de la sagesse de Dieu. J'entendis cela, et les diverses circonstances rapportées par les amis, d'où il apparaissait clairement que le diable, ou l'esprit mauvais, pouvait être plus aisément excité et lâché que dompté ou lié. J'ai observé que lorsque moi-même et d'autres frères publics, dans une réunion en ce lieu, rencontrions de l'opposition, si c'était de la part d'une personne d'entendement ou de savoir qui se conduisait sobrement, nous pouvions avoir une discussion équitable et tranquille, tendant à instruire et édifier, et les étudiants présents se comportaient avec attention, comme des personnes désireuses de recevoir instruction. Mais si une personne, vaine et irréligieuse, entrait dans la réunion pour se moquer, railler, rire de nous, ou montrer du mépris contre notre témoignage chrétien, une telle personne servait d'instrument vil et méchant de Satan, qui éveillait la légèreté ou le rire chez certains étudiants dissolus, pour leur chute et leur honte. Une fois, un vieux prêtre naturellement aveugle vint à notre réunion avec quelques compagnons, on disait qu'il était aveugle depuis l'enfance. Ils se conduisirent assez civilement. Le prêtre semblait être une personne instruite et souhaita me questionner sur la Trinité pour savoir si j'y croyais ou non. Je lui répondis en termes des Saintes Écritures que je reconnais véritablement et crois que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un selon la doctrine de Jean l'Évangéliste, 1 Jean 5, 7. Mais cette réponse ne plaisait pas au prêtre et je ne voulais lui en donner aucune autre. Je ne voulais pas entrer dans une dispute au sujet de trois personnes distinctes, dans laquelle le prêtre aurait voulu m'entraîner, n'étant pas libre en conscience de donner à l'unique vrai Dieu d'autres noms ou appellations que ceux donnés dans les Saintes Écritures. Je ne jugeais pas sûr d'employer des termes non scripturaires, ou métaphysiques, ou scolaires, sur un point aussi sacré que celui de la divinité, ainsi je m'en tins aux termes et au langage simple de l'Écriture. Sur quoi le prêtre, déçu de ne pas avoir une réponse selon ses propres termes, répondit « Vous dites qu'il y en a trois, trois quoi ?» Je répondis encore « Le Père, la Parole et le Saint-Esprit ». Le prêtre, toujours insatisfait, répéta encore sa question et puis je répondis de nouveau comme l'Écriture les nomme « Le Père, la Parole et le Saint-Esprit » et ces trois sont un comme auparavant. Rien ne satisfaisait le prêtre sinon « Trois personnes » à sa question réitérée « Trois quoi ?» Si j'avais répondu « témoin », cela n'aurait pas convenu non plus, bien que plus scripturaire que l'autre, car Dieu est témoin, Christ est le témoin fidèle, son esprit rend témoignage. Ce sont les trois qui portent témoignage, ou qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. C'était une réponse sûre et suffisante, dont je ne voulais donc pas me départir, mais sur laquelle j'insistais en termes de l'Écriture, et à ce point la dispute s'interrompit vite et paisiblement. Note de l'éditeur du site, ces trois sont un, non trois personnes, mais certainement un seul esprit. Le mot « Trinité », jamais mentionné dans la Bible, est une invention humaine visant à expliquer ces trois mentionnés ci-dessus. Les Quakers insistaient sur le fait qu'il ne s'agit pas de trois personnes, mais plutôt d'un seul esprit. C'est un mystère qu'il vaut mieux laisser décrit en termes scripturaires, comme Whitehead l'explique ci-dessus. Même avec une compréhension supplémentaire reçue de votre enseignant, vous ne devriez pas tenter de communiquer cette compréhension au-delà du langage scripturaire de 1 Jean 5-7, sauf si l'on vous l'ordonne spécifiquement. Penn et Whitehead se sont trouvés engagés dans une controverse considérable et non résolue en tentant des explications au-delà du langage scripturaire, car toute élaboration, si vraie soit-elle, est impossible à prouver sans appui scripturaire. Au risque de violer mon propre conseil, considérez les Écritures suivantes, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. 1 Jean 5, 7. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel. 2, 6, 4. La Trinité de trois personnes, un Dieu à trois personnes, est un grand blasphème pour les Juifs et les musulmans. Malheureusement, c'est une invention humaine de la secte catholique romaine, sans une seule référence dans la Bible, inventée pour expliquer l'inexplicable à l'esprit charnel de l'homme. Dieu est lumière, Dieu est un feu dévorant, Dieu est un esprit. Jésus est l'unique expression de la gloire de Dieu, Christ est l'image du Dieu invisible. Col 1, 5-20. Apocalypse 5 s'y décrit l'agneau évidemment Christ comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et ce sont les paroles de celui qui a les sept esprits de Dieu, Apocalypse 3:1. Et il y avait sept lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu. Apocalypse 4:5 ainsi, sept esprits peuvent représenter Dieu et l'agneau Christ, et c'est le Saint-Esprit. Heureusement, personne n'a encore suggéré qu'il y ait sept dieux, ou pire, sept esprits pour chacune des trois prétendues personnes, faisant 21 dieux, ce qui est bien sûr ridicule. Peut-être pouvez-vous voir à quel point l'idée d'un dieu à trois personnes est erronée. Nous savons que la lumière naturelle se compose de sept couleurs et longueurs d'ondes différentes, infrarouge, rouge, orange, vert, bleu, violet, ultraviolet. La lumière et l'esprit, deux noms de Dieu, sont de même constitués des sept esprits de Dieu tout en restant un, non pas sept lumières différentes, non pas sept dieux différents. Il y avait un peuple appelé manifestarien, universaliste ou partisan du libre arbitre, et par certains des Moréens, à Lindregi, dans le comté de Norfolk, et en quelques autres lieux voisins, vers la région des Fens. Ils reçurent ce nom de Moréens de Thomas Moore, leur principal ministre ou chef, qui faisait des prosélytes, rassemblait une congrégation pour lui-même et régnait sur eux pendant qu'ils étaient sous son ministère. Parmi eux, on m'a très crédiblement informé, il y avait beaucoup de personnes qui avaient en elles des désirs vivants et des mouvements vers le Seigneur et sa puissance, à tel point que certains d'entre eux étaient amenés parfois à se réunir assez discrètement pour attendre le Seigneur Dieu, afin de sentir sa puissance et son esprit l'émouvoir, de prier et de prononcer des paroles pour l'édification, s'exhortant les uns les autres à un culte et à une dévotion intérieure et spirituelle envers Dieu. De ce fait, certains d'entre eux en vinrent, en mesure, à avoir intérieurement quelques touches et quelques sentiments qui leur apportaient crainte et tremblement. Et Thomas Moore, venant à s'en apercevoir, s'efforça de décourager et d'éteindre ces notions et ces effets de l'esprit qui apparaissaient en eux, comme un très tendre ami ancien, qui avait été l'un des leurs, m'en donna un récit ample, substantiel et circonstancié, d'après une connaissance et une observation certaines. Ayant ainsi été découragé, et leurs bons mouvements et désirs ayant été contrariés, certains se tournèrent vers un esprit relâché et des notions corrompues, dont plusieurs furent ensuite ramenés, lorsque la vérité leur fut démontrée dans l'esprit et la puissance de Christ, et que leurs esprits furent ainsi tournés vers sa lumière en eux, pour attendre un sentiment intérieur de sa puissance. Après quelque temps, Thomas Mougier, fils de Thomas Moore, devint prédicateur parmi eux, ainsi que John Horne, qui avait acquis un peu plus d'art scolaire et de ruse que les deux autres. Il fut établi et promu comme prêtre de paroisse à Lynn, mais aussi dépourvu de la connaissance de la lumière et du mystère de Christ et de sa puissance que les autres, car tous trois s'unissaient dans une amère opposition à ce que nos amis mettaient en avant, surtout lorsque plusieurs les désertèrent et quittèrent leur communion. John Horne devint très prévenu et fit une grande part de son affaire, avec ses frères les deux Thomas Moore, de vouer aux gémonies, d'attaquer et de calomnier le peuple appelé Quakers par parole et par écrit. Ils firent grand bruit contre nous dans et autour de la ville de Lane, pour exciter l'hostilité du peuple contre les Quakers, les dépeignant comme des imposteurs, des antéchrists, des hérétiques, des maudits, etc. Et lorsque certains d'entre nous ont été à Lane pour visiter les réunions de nos amis là-bas, John Horne a placardé des papiers au marché, dans quelques lieux publics près de celui-ci, contre nous, pour nous rendre aussi odieux qu'il pouvait, montrant par là une envie et une malice aussi amères que certains papes, par leur bulle, en ont exprimé contre les martyrs protestants, les condamnant comme hérétiques, etc. Percevant la grande amertume de John Horne et de Thomas Moore contre nous, et à quel point ils se montraient implacablement envieux envers nos amis, nous recherchâmes une réunion publique avec eux à un certain moment, lorsque George Fox le Jeune était avec moi à Lane, ce qui était le 15 jour du 7e mois 1659, et que nous demandâmes et obtînmes en conséquence. Nous nous réunîmes dans la maison à clocher de la paroisse de John Horne, à South Lane, dans le Norfolk, où lui et Thomas Maugier s'associèrent à la controverse avec nous et nos principes, au sujet de l'atteinte de la perfection sans péché des saints et des vrais croyants en Christ en cette vie. Cela fut combattu par eux, mais affirmé et défendu par nous, selon les saintes Écritures, en faveur de Christ et de sa manifestation et de son œuvre, qui est de détruire les œuvres du diable et de restaurer et sauver l'homme du péché et de la condamnation. En opposition, ils plaidèrent et affirmèrent que le péché est un héritage naturel chez les croyants, tant qu'ils vivent ou aussi longtemps qu'ils sont ici sur la terre, contrairement à l'état de la nouvelle naissance, ou à celui de celui qui est né de Dieu, en qui sa semence demeure, Jean 3, 9. Ils semblaient vouloir reconnaître une perfection de sincérité envers Dieu, mais non sans péché, alléguant Hazar, roi de Juda, que son cœur fut parfait avec le Seigneur tous ses jours, 1 roi 15 14. Et pourtant Hazar fut repris par le prophète Anani, pour ne pas s'être confié en l'Éternel son Dieu, mais au roi de Syrie, 2 Chr 16 7. Nos opposants argumentaient à partir de tous ses jours, où son cœur fut parfait avec le Seigneur, pour inclure tous les jours qu'il vécut lorsqu'il était roi, alors qu'il est clair qu'Anani le voyant lui montre son imperfection dans sa réprimande, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, pour se montrer fort en faveur de ce dont le cœur est entier envers lui. En ceci tu as agi follement, c'est pourquoi désormais tu auras des guerres. Alors Asa se mit en colère contre le voyant, et le mit dans une maison de prison, etc. En cela apparaissent les imperfections d'Asa, et non seulement en celle-ci, mais aussi lorsqu'il fut gravement malade des pieds, il ne chercha pas l'Éternel, mais les médecins, verset 12. Il est donc clair que, tous les jours d'Asa, où son cœur fut parfait avec l'Éternel son Dieu, furent ces jours où il se confiait en l'Éternel, prospérait, l'emportait sur ses ennemis, et recevait une véritable domination de la part du Seigneur, aussi longtemps qu'il se confiait en lui. Car après qu'il eut décliné, en ne se confiant pas en l'Éternel, ni en le recherchant, dès lors le jugement des guerres devait le suivre et l'accompagner, alors, tous ses jours, c'est-à-dire ses bons jours et ses jours prospères, étaient finis. Il est clair que la réprimande du voyant contient une telle exception que, comme si dans une partie de l'histoire il est dit, le cœur d'Asa fut parfait avec le Seigneur tous ses jours, l'autre partie est acceptée, quand il ne se confia pas en l'Éternel et fut repris par le voyant, l'honnête prophète. Par cela, nos opposants s'eussent dit, en invoquant la perfection du cœur d'Asa avec le Seigneur tous ses jours, laissaient facilement percevoir quel type de perfection il reconnaissait, non pas une perfection de sanctification ou de sainteté, mais une telle perfection où le péché doit être leur héritage naturel durant la vie, ou dans laquelle ils peuvent agir follement, commettre le péché, se détourner du Seigneur, et ne pas se confier en lui, ni le rechercher au jour de la détresse ou de l'affliction. Mais c'était là leur grande imperfection, bien loin de cette sanctification parfaite par l'Esprit et la puissance de Christ, et de la persévérance dans sa grâce, et du fait de demeurer en Christ, que nous croyons et pour laquelle nous plaidons, la grâce de Dieu en est par Christ Jésus étant suffisante pour ses bienheureux accomplissements, et pour cette bonne fin visée et poursuivie par tous les fidèles en Christ Jésus. Mais c'est nos opposants, et adversaires ne voulaient pas être persuadés de quitter la possession de leur héritage naturel durant la vie, au contraire, ils voulaient nous accuser et nous vilipender pour notre témoignage chrétien à la puissance et à l'œuvre de Christ au-dedans, afin de nous régénérer et de nous racheter hors de la nature pécheresse, et de nous rendre aptes et de nous préparer, par une sanctification parfaite de l'esprit, à un meilleur héritage que celui du péché et de l'iniquité. Non, ces hommes qui plaidaient pour que le péché fût leur héritage naturel et demeurât même chez les croyants tant qu'ils sont ici, bien qu'ils confessassent que leur nature est une nature souillée, se flattent pourtant qu'aussi souillée qu'elle soit, elle est restaurée en Christ. Mais comment est-elle restaurée en Christ si elle demeure souillée tous leurs jours, ou tant qu'ils sont en cette vie? Quelle communion y a-t-il entre la justice et l'injustice, et quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres? Pour prouver que le péché est un héritage naturel chez les croyants aussi longtemps qu'ils sont ici, ils citèrent Rome, 7:17, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui ne prouve pas que ce fut l'état de Paul durant toute sa vie, encore moins que le péché fut son héritage naturel tant qu'il vécut, car il connaissait la délivrance, il fut affranchi du péché et de la condamnation, et plus que vainqueur par Christ qu'il a aimé. La lumière par laquelle Christ éclaire tout homme venant dans le monde, il ne voulait pas la confesser comme spirituelle, brillant immédiatement de Christ, la parole divine. Mais Thomas Moore disait, « Elle est à la fois naturelle et spirituelle, bien qu'il n'ait jamais pu le démontrer, ni que cette lumière dont parle Jean 1:9 étant la vie qui était dans la parole, qui était et la lumière des hommes dès le commencement, soit donc divine et spirituelle, et non la raison naturelle de l'homme, laquelle en un sens ils estimaient spirituelle comme opposée au corps naturel, mais en un autre sens naturelle comme opposée à la lumière divine, bien que la parole soit divine. Je perçus que, bien que ces hommes et leurs adeptes fussent estimés au-dessus de beaucoup d'autres prêtres de paroisse et gens d'église en matière de foi et de religion, ils étaient pourtant aussi charnels dans leurs notions et leur foi, et aussi ignorants de la vraie lumière et de la parole éternelle, que d'autres professants littéraux, étrangers au mystère de Christ en esprit et à la vraie foi vivante en Christ. Ils étaient très portés à plaider et à argumenter en faveur du péché chez les croyants durant toute la vie, et tout aussi envieux contre nous, pour notre prédication de l'évangile de lumière et de perfection, la lumière de Christ dans l'homme et de la perfection de la sanctification, que n'importe lequel de nos autres adversaires prévenus, et aussi prompt à détourner et à mal interpréter nos paroles, et à en tirer de fausses inférences et implications, surtout John Horne, pour créer ou susciter des préjugés et de dures pensées dans le peuple. Parce que nous reconnaissions que le corps de Christ, dans son état glorifié au ciel, est un corps glorieux et spirituel, et que les corps ressuscités des saints ne sont pas charnels, mais spirituels, il voulait insinuer contre nous soit un reniement, soit une absence de foi quant au corps de Christ au ciel et à la résurrection. Nous ne confessâmes pas seulement la résurrection et l'ascension du corps de Christ qui avait été mis à mort, que sa chair ne vit point la corruption, c'est la D. Qu'il ne se corrompit pas, mais ressuscita comme un corps réel, et non comme un corps fantomatique, mais nous leur retournâmes aussi quelques questions, concernant le corps de Christ après son ascension, pour savoir s'il reconnaissait que ce même corps était un corps spirituel et glorieux, ou en quel sens il le reconnaissait. Ils confessèrent que c'était un corps de chair et d'os, d'après sa parole, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai, question, mais n'y avait-il pas de sang en lui? Thomas Moore affirma ouvertement que le corps de Christ au ciel est un corps de chair et d'os sans sang, et qu'il monta au ciel sans sang matériel. Ici ils allèrent trop loin, au-delà de ce que Christ ou les Écritures avaient dit. Car puisque son corps était un corps réel et complet, ces hommes ne savaient pas s'il pouvait rester quelque sang en lui lors de la crucifixion, ou s'il avait été renouvelé en lui lorsqu'il fut vivifié et ressuscité d'entre les morts, bien que la chair et les os fussent plus visibles à voir. À la suite de notre mise en question de l'affirmation de Thomas Moore, ils parurent hésitants et ébranlés dans leurs esprits à ce sujet, et pourtant disposés à l'excuser et aussi à passer sous silence sa notion illettrée. Thomas Moore plaida comme excuse CAD. Du fait que Christ a au ciel un corps de chair et d'os sans sang, que nous ne lisons pas qu'il y eut du sang dans le corps d'Adam au paradis. À cette excuse non scripturaire, John Horne et Thomas Moore ajoutent que Thomas Moore a effectivement avancé une telle observation comme une conception ou pensée de lui, qui rendait probable à ses yeux qu'un corps spirituel glorifié n'a pas besoin d'avoir du sang matériel en lui, et qu'il ne lit pas que le corps d'Adam eut du sang avant la chute, en quoi il conçoit que ce qui auparavant était plus purement des esprits fut changé en sang, et que par là le corps devint mortel, mais c'est là sa conception privée, qu'il ne donne pas comme un or. Mais sur quelle philosophie cette étrange notion est-elle fondée? Que le corps d'Adam n'avait pas de sang avant la chute, mais était composé de purs esprits, puis fut changé en sang. Par conséquent, ce serait après la chute alors qu'en vérité il fut fait de poussière avant la chute que le corps d'Adam aurait été fait de la poussière de la terre, car ils ont autant d'écritures pour dire que le corps d'Adam n'avait pas de sang avant la chute, ou tant qu'il était au paradis. Quelle merveilleuse philosophie est-ce là? Mais de nouveau, ils font volte-face, se dédisent de leur opinion et de leur conception particulière d'auparavant, et laissent la question incertaine, en quoi ils paraissent plus ingénieux qu'ils ne l'ont été lorsqu'ils contestaient au sujet de secrets cachés qui appartiennent à Dieu. Car dans leur dite Fully Discovery, page 76, ils nous disent ainsi à savoir, nous disons que ce corps de Christ qui avait chair et sang après sa résurrection est monté au ciel et est au ciel. Luc 24:39-40, 51-52. Quel changement ou quelle transmutation supplémentaire il a eu dans son ascension et sa gloire, nous ne le savons pas. En cela, ils ont montré plus d'ingéniosité que dans leur contestation contre nous au sujet de choses qu'ils ne connaissent pas, tout en impliquant et en concédant qu'ils croyaient que le corps de Christ avait subi, dans son ascension et sa gloire, un tel changement ou une telle transmutation qu'ils ne connaissaient pas. En moins, ils ont non seulement été trop empressés et intrusifs en ce cas, tout en étant incohérents avec eux-mêmes, mais encore incertains dans leurs propositions et conjectures, et très injustes dans leurs réflexions. Ainsi, pour se disculper, ils nous disent que notre question est perverse, en ce qu'elle insinue ou les accuse d'appeler le corps personnel de notre Seigneur Jésus un corps de chair et d'os, ce qu'ils disent être une calomnie, car ce n'est pas leur expression, et pourtant ils disent, peut-être leur ont-ils parfois laissé passer sans y prendre. Comment cela pourrait-il être soit une calomnie, soit non leur expression, puisqu'ils l'ont précédemment avoué? Thomas Moe a certes avancé une telle remarque, comme une conception ou une pensée de sa part, et maintenant, que peut-être leur ont-ils parfois laissé passer sans y prendre garde? Quelle incohérence ces hommes ont montré dans leurs notions, et quelle versatilité dans leurs conjectures! Après bien des contestations charnelles de leur part, à une réflexion plus approfondie, ils voudraient paraître plus raffinés et spirituels dans leurs notions, lorsqu'ils nous disent « Nous sommes assurés que même les enfants de la première résurrection, lorsqu'ils parviendront à cette résurrection des morts et que leurs corps, maintenant vils, seront façonnés à la ressemblance de son corps glorieux. Eux, dans ces mêmes corps, étant spirituels, immortels, puissants, incorruptibles, seront égaux aux anges, que rien de corruptible comme des portes démues. » Et pourquoi cela devrait-il être tenu pour incroyable? Remarque 1. Que le corps de Christ est glorieux, selon l'Écriture claire et indéniable, et que les corps des saints, dans la résurrection, seront semblables à son corps glorieux, ce qui ne fait aucun doute pour nous. De même qu'ils seront spirituels, incorruptibles, égaux aux anges, égalité qui est attribuée au Fils de Dieu et à la résurrection. 2. Mais comment cela s'accorde-t-il avec la description et la comparaison que ces hommes ont donné de ces corps spirituels dans la résurrection, tout en les tenant pour des corps de chair et d'os? Quelle incohérence nos adversaires ont montré en cette matière 3. Et il paraît fort improbable que des corps de chair et d'os puissent pénétrer ou se frayer eux-mêmes un passage à travers de tels obstacles, comme des portes, des murs ou autres semblables, plus aisément que les corps mortels dans l'air, et ils n'ont produit aucune écriture pour appuyer cette notion. Il faudrait que ce soit des corps très sublimes, subtils, aériens, des corps éthérés, et non ces corps grossiers de chair et de sang, pour pouvoir faire de telles pénétrations. 4. Pourtant, nous ne mettons pas en doute les puissances angéliques de pénétrer et de franchir des obstacles d'une manière merveilleuse. Toutefois, il n'est pas sûr que les hommes soient trop empressés et intrusifs dans ces matières et choses invisibles. Car de telles intrusions font naître des questions et des disputes critiques sur la manière de la résurrection, comment, avec quel corps, et sous quelle forme et de quelle manière ils apparaîtront. Cela touche de près à un déni ou à une incrédulité à l'égard de la doctrine de la résurrection des morts, et tente à engendrer questions, doutes et incrédulités, ce qui n'est pas sûr pour les faibles dans la foi, d'être admis dans des disputes douteuses. Il y en avait parmi les Corinthiens qui disaient « Il n'y a point de résurrection des morts », dont l'apôtre reprit la folie, lorsqu'il demandait « Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps viennent-ils ?» à qui il répondit en ces mots « Insensé, ce que tu sèmes n'est point vivifié s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui doit naître. » Or, quant à la résurrection selon la Sainte Écriture, nous n'en doutons ni ne la mettons en question, mais nous y croyons sincèrement, et que si en cette vie nous avons part en Christ et faisons l'expérience qu'il est pour nous la résurrection et la vie, nous ne doutons pas mais croyons que nous aurons nos propres corps, lesquels seront à la fois spirituels et glorieux, semblables à son corps glorieux. À chaque semence il donnera un corps comme il lui plaît, et c'est pourquoi, si nous étions si pointillés ou curieux que de questionner Dieu, ou Christ, ou ses saints, ou ses ministres, sur la nature des corps, sur leur essence ou substance, ou sur leur éclat, leur gloire et leur spiritualité, cela indiquerait une défiance ou une incrédulité quant à l'état futur des saints dans la gloire, et quant à la puissance divine, ainsi qu'à l'ordonnance et aux promesses de Dieu et de Christ de les introduire dans un tel état de gloire. Certainement, si le Seigneur nous reconnaît pour ses enfants et fils de Dieu en cette vie, bien qu'il ne paraisse pas encore ce que nous serons, nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est, 1 Jean 3, 1, 2. Et notre Seigneur Jésus-Christ a déclaré, « Voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et Père, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi là où je suis, afin qu'il contemple ma gloire que tu m'as donnée. » Nous pouvons demeurer satisfaits dans la foi réelle et l'art sincère qui nous est donné de ses glorieuses promesses et de ses privilèges, sans nous occuper de questions ignorantes, de disputes perverses ou d'intrusions dans des choses invisibles, ni dans des choses secrètes et non révélées qui appartiennent à Dieu. Et si quelqu'un devait demander quel changement ou quelle transmutation le corps de Christ a eu après qu'il est ressuscité d'entre les morts, ou dans son ascension, ou comment il a été changé, étant vu avec chair et os et sans sang en lui, comme on le suppose lorsqu'il était ressuscité d'entre les morts, ainsi que ses adversaires l'ont suggéré d'une manière incertaine et douteuse, je conclurai que de tels intrus trop empressés ne devraient pas être satisfaits ni recevoir réponse, mais être évités. Nous pouvons, sans aucun doute, croire que le corps de Christ a été merveilleusement changé et glorifié dans l'ascension, et qu'Our Enoch, Hébreux 5, qui fut transporté afin de ne pas voir la mort, a été changé, et le prophète Élie dans son enlèvement de Roi 2, 11 lorsqu'il fut emporté dans un char de feu et par un tourbillon monta au ciel, ce qui préfigurait l'ascension de Christ, Élie étant un éminent type de Christ. Nous pouvons sans offenser croire que le corps d'Élie dut être changé avant d'entrer au ciel, puisque la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, 1 Cor 15-50 et pourtant sans offenser conclure que le corps d'Enoch avant d'être transporté, et le corps d'Élie avant son enlèvement n'était pas sans sang en eux, autrement il n'aurait pas eu un tel changement, pour être rendu apte au royaume que la chair et le sang ne peuvent hériter. La grande puissance et les œuvres de Dieu dans ces événements et ces affaires devraient être plutôt une occasion d'admiration que de dispute, tout comme la résurrection par la puissance de Christ, et le changement soudain des vivants en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Cor 15, 51-52. C'est par la grande et glorieuse puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance et la sagesse de Dieu, qu'un changement si soudain et merveilleux doit s'opérer et que les morts doivent ressusciter incorruptibles. Et puisqu'il est arrêté que les hommes meurent une fois, après quoi vient le jugement, et qu'il y aura une résurrection tant des justes que des injustes, et cela par ordonnance divine, et qu'il en ira bien aux justes mais mal aux méchants, j'ai toujours cru qu'il vaut mieux s'appliquer à être juste en cette vie, que de nous tourmenter sur ce que nous serons ou comment nous serons dans la vie à venir, ou sur la nature des corps ou des vêtements que nous aurons au ciel, et de s'en remettre au Seigneur pour cela. Notre principal soin et notre préoccupation doivent maintenant être de marcher sur le chemin du ciel, d'y parvenir dans la voie de la vérité et de la justice, et là nous ne manquerons de rien, mais jouirons de toutes choses pour parfaire notre joie et notre félicité au ciel et dans la gloire éternelle, dans la pleine jouissance de cet héritage incorruptible qui ne se flétrira jamais, réservé au ciel pour tous ceux qui sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut. 1 Pierre 1, 4-5. Coup de personne, par de vaines imaginations et de hautes pensées, s'immisçant dans des choses invisibles et des matières trop élevées pour elles, et pour leur sagesse humaine et leur raison charnelle, s'obscurcissent ainsi elles-mêmes et voilent leur entendement, les détournant de la véritable connaissance sanctifiante et salvatrice de Dieu, et du mystère de Christ Jésus, et de sa puissance et de son esprit, lui qui est puissant et fort en lui-même, et dans ses saints et ses membres, lesquels, unis à lui spirituellement, sont ainsi faits membres de son corps. Éphésiens 4:4. Il y a d'autres personnes qui, dans leur opinion singulière, leur notion étrange ou nouvelle, s'élèvent dans leur propre idée au-dessus de tous les autres, et causent ainsi cruelles dissensions, divisions bien souvent soit à propos de mots de distinction théorique, soit à propos de choses non essentielles au salut, ni à la connaissance salvatrice du vrai Dieu ou de son Fils Jésus-Christ, et par conséquent, elles s'efforcent de faire des divisions et des parties à elles, afin d'être exaltées comme chefs de secte. Mais le jugement de la vérité est sorti contre tout cela, et demeurera à jamais au-dessus de cet esprit élevé et arrogant. Sans controverse, grand est le mystère de la piété, Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Or, puisque ce mystère de la piété est sans controverse un grand mystère, il est meilleur pour les croyants du christianisme d'éviter autant qu'ils le peuvent les controverses, et de fuir les disputes perverses d'hommes à l'esprit corrompu, avec toutes leurs questions ignorantes et sans profit, et plutôt de se tourner en leur esprit vers la lumière de Christ, de se retirer dans la simplicité en lui, et d'y veiller pour comprendre ce grand mystère de la piété, tant en ce qui concerne Dieu manifesté en chair que justifié en esprit. La manifestation et la puissance de Christ dans la chair furent excellentes en lui, et dans sa chair, par ses préceptes et sa doctrine très précieux, ses œuvres merveilleuses et ses miracles, son bienheureux exemple et ses souffrances, il déclara et révéla le dessein saint du christianisme. Être véritablement sensible à ce qu'il est justifié en esprit est très précieux, et procède d'une connaissance et d'une expérience vraie, spirituelle et vivante de Christ en esprit, et tel qu'il est connu selon l'esprit, et non selon la chair ni par quelque connaissance charnelle de lui. Car de même que la sagesse est justifiée, recommandée et louée par ses enfants, par les saints en eux, de même Christ est justifié et exalté en esprit, dans ses fidèles disciples, sa sainte génération et ses enfants. Dieu et sa grande puissance se sont manifestés merveilleusement en Christ au jour de sa chair, à bien des égards, et il montra en ses jours de nombreux signes et marques éclatants de sa puissance, comme dans ses miracles admirables, le fait de donner sa vie et de la reprendre, la transfiguration sur la montagne, de sorte que son visage brillait comme le soleil, Matthieu 17. Dans son apparition, sous plusieurs formes, après être ressuscité des morts, Marc 16-12, et à diverses reprises, se montrant et apparaissant au milieu de ses disciples, la porte étant fermée, Jean 20-19-26. Et aussi lorsqu'il était à table avec eux, et qu'il se manifesta d'une manière si familière que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent, il disparut à leur regard, Luc 24-30-31. Une telle puissance merveilleuse il montra après être ressuscité des morts, afin de se manifester et de confirmer ses disciples dans la foi, la connaissance et le témoignage de sa résurrection, ainsi que de son ascension, La déclaration de Thomas Moore selon laquelle le sang versé de Christ est le fondement de leur foi suscita une autre question. Où est donc ce sang? À quoi ils ne répondirent pas et ne pouvaient le dire. Pourtant ils dirent que la vie de Christ n'est pas le sang de Christ, en quoi ils se montrèrent ignorants à la fois du mystère de son sang et du fondement de la foi, qui est Christ lui-même. Bien que le sang de Christ, versé pour la rémission des péchés, fût réellement agréable à Dieu, puisqu'il fut offert par lui comme partie de son offrande pour faire réconciliation et expiation pour beaucoup de gens qui avaient transgressé, car lui Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous comme témoignage en son temps de l'amour gratuit de Dieu envers tout le genre humain. Pourtant Christ est le fondement et la principale pierre angulaire. Leur contestation au sujet du corps de Christ au ciel et de son sang comme entièrement répandu à la suite de réflexions ultérieures en vint à s'atténuer, et ils varièrent dans leur livre contre nous, intitulé à brief Discovery of the People Called Quakers, car à la page 11 ils nous dirent que son sang qui a été versé ou répandu pour la rémission de nos péchés dans ses vertus est avec le Père et ainsi en est avec Christ. À la page 12, ils disent qu'il y a en effet des arguments très plausibles employés pour prouver que ce sang précieux a été réuni de nouveau au corps de Christ dans la résurrection, mais comment cela s'accorde-t-il avec leur opinion que c'est un corps de chair et d'os sans sang en lui? En quoi, dans les deux cas, ils semblent contredire ce qu'ils ont déclaré, à savoir que c'est plutôt une vertu au sujet de laquelle on leur conseille de ne pas être sages, ni de penser, ni de conjecturer au-delà de ce qui est écrit, page 12. S'ils s'étaient tenus à ce conseil, ils auraient évité bien des vaines contestations ainsi que de la confusion au sujet de leurs conjectures et imaginations incertaines par lesquelles beaucoup de cœurs insensés ont été obscurcis. Lorsque des hommes s'immisçant dans des choses invisibles et mettent leurs imaginations à l'œuvre à leur sujet, que ce soit à propos du corps de Christ au ciel ou des corps de résurrection des saints, quant à leur forme ou leur figure, ou quant à la nature des corps, n'étant pas contents de s'en remettre à la volonté de Dieu et à son bon plaisir, lui qui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence son corps propre, ils peuvent former dans leur esprit des idées ou des ressemblances, et ne sont jamais plus près du ciel mais plus éloignés de la vie. Lorsqu'une personne craignant Dieu et aimant notre Seigneur Jésus-Christ avec sincérité et vérité confesse sa croyance, sa foi ou son espérance réelle, dans les termes de la Sainte Écriture, cela suffit, que ce soit au sujet de la souffrance, de la mort, de la résurrection ou de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel et dans la gloire, ou au sujet de son corps, spirituel et glorieux au ciel. Et comme les saints lui sont unis spirituellement, ils sont aussi unis à son Église et à son corps, et tenus pour mystiques tant qu'ils sont ici sur la terre. Ainsi leur corps bas et humble sera changé et façonné à l'image de son corps glorieux, et au sujet de la résurrection des morts, tant des justes que des injustes, et du jugement éternel, selon la Sainte Écriture, je dis, quiconque, craignant Dieu ou ami de la vérité, est à quelque moment interrogé sur ces choses, il suffira, et cela devrait être satisfaisant, de répondre dans le langage. Et je conseillerais à tous les amis de s'en tenir aux mots, aux termes, au langage et à la doctrine de la Sainte Écriture, et de ne pas se laisser amadouer ni détourner de cela, ni se laisser imposer, soit par des termes non scripturaires, soit par des questions ignorantes, par quelque adversaire crêleur ou chicaneur que ce soit. Car il faut éviter les questions folles et ignorantes, tout autant que les vains discours profanes. S'asseoir et spéculer sur le type de corps que l'on possédera dans l'avenir est une diversion par rapport à ce qui est important, la liberté vis-à-vis du péché, l'union avec Dieu, l'entrée dans le royaume tout en étant sur la terre, la perfection, la pureté, etc. Méfiez-vous de ceux qui posent des questions d'importance mineure. Mais évite les questions folles et ignorantes, sachant qu'elles engendrent des crêles, 2 Timothée 2:23. Ces personnes immatures sont ambitieuses et recherchent la controverse, ce qui entraîne avec elles certains autres membres immatures et leurs nouvelles doctrines. Il faut leur répondre, lorsque tu auras besoin de savoir, le Seigneur te le révélera. Ensuite, il convient de les reprendre en privé pour avoir posé des questions sans portée, qui ne concerne pas le processus par lequel on parvient à la maturité en Christ, lequel se fait par l'attente silencieuse quotidienne devant le Seigneur, en écoutant, veillant, entendant, voyant et se repentant, ce qui entraîne une croissance en force et en compréhension. Voir la lettre de Stephen Crisp sur ce sujet pour plus d'informations sur la manière dont c'est un outil de l'ennemi, créer une controverse sans portée, jusqu'à ce que la question de poids dont ils auraient dû se préoccuper, à savoir comment être gardé dans l'amour de Dieu et dans l'unité céleste, ait été chez beaucoup perdu et oublié. Je n'ai donné ici qu'un bref récit concernant les controverses entre le dit John Horne, Thomas Moore et nous, le peuple appelé Quakers, lesquelles sont plus amplement mises au jour dans plusieurs réponses à leurs livres empreints de préjugés. Ce qui concerne notre première dispute reçoit réponse dans un traité intitulé A Brief Discovery of the Dangerous Principle of John Horne and Thomas Moore J.R. Imprimé en 1659. Lors de la rencontre déjà rapportée, les sujets et les questions furent pour la plupart débattus paisiblement, et les gens, bien que nombreux, furent généralement civils, la réunion se terminant paisiblement, Il y avait des personnes présentes qui prirent quelques soins de nous, CAD. George Fox, JR, et moi-même, afin que personne ne nous fasse de mal. Ne pouvant atteindre ses fins pour nous livrer à l'odium populaire, John Horn parut mal à l'aise et irrité, tant dans sa prédication que dans ses écrits, pour nous rendre méprisables, divulguant ses papiers diffamatoires dans la ville, et se donnant beaucoup de peine, dans de nombreux écrits, à nous reprocher, nous et nos principes. Et beaucoup d'écrits passèrent entre lui et moi sous forme de questions et de réponses. Il noircissait des feuilles entières d'une petite écriture contre moi, ce qui n'était pas compatible avec le fait de me vilipender, de me mépriser hautement et de me réduire à rien autant qu'il le pouvait, me condamnant comme maudit, hérétique, etc. Autant d'accusations qu'il pouvait fabriquer. Cependant, nos balles de papier ne mirent pas fin à l'échauffourée, et John Horn et moi eûmes une autre réunion publique dans le cœur de son église paroissiale, à South Lane, le 13 du 11e mois 1659, quelques semaines après la première. Lors de cette réunion, John Horn entreprit d'établir sa précédente accusation contre le peuple appelé Quakers, ce qui, semble-t-il, n'avait pas été fait, mais restait à faire, à savoir, prouver qu'ils sont des trompeurs, et un peuple qu'on ne doit pas écouter ni suivre, mais tenir pour maudit, etc. C'était là une accusation très lourde contre nous en tant que peuple, mais bien loin d'être prouvée, et indigne d'un ministre professé de Christ d'enseigner ainsi aux gens à nous maudire, ou à nous juger ou tenir pour maudits, ce qui est contraire à la doctrine des ministres de Christ, bénissez et ne maudissez pas. Mais pour quelle raison cette lourde malédiction fut-elle annoncée contre le dit peuple comme étant trompé ? Principalement parce qu'ils tiennent la doctrine de la perfection, c'est-à-dire une perfection sans péché accessible aux vrais croyants en cette vie, ou de ce côté de la tombe, laquelle fut à la fois crue enseignée par les saints prophètes, Christ Jésus et ses fidèles ministres, conformément aussi à ce que Dieu a promis à son peuple fidèle qui lave de toutes ses souillures, et aux vrais disciples de Christ qui croient et marchent dans la lumière et font l'expérience du sang de Jésus-Christ, le sang de l'Alliance éternelle, pour les purifier de tout péché. Mais au contraire, notre juge sévère, John Horn, parut aussi s'opposer aux vrais apôtres de Dieu et de Christ en affirmant qu'ils se confessaient pécheurs, qu'ils étaient faibles et brutaux en eux-mêmes, comme d'eux-mêmes, et qu'ils se reconnaissaient pécheurs, et qu'ils avouaient le péché en eux, et qu'aucun d'entre eux ne se glorifiait de sa perfection et de son état sans péché. Je nie comme fausse leur confession selon laquelle ils abandonnèrent le péché et le mal, et exhortèrent les autres à faire de même. Je nie comme fausse leur glorification dans le Dieu de leur salut, et leur réjouissance en son salut, et en leur délivrance du péché et de Satan, délivrance que Dieu opéra en eux et pour eux par Jésus-Christ. Combien odieuse et combien maudite est la manière dont John Horn dépeint le peuple appelé Quakers, disant qu'ils ne seront jamais réconciliés avec ses invectives, ni avec sa doctrine plaidant pour le péché durant la vie, et accusant les saints prophètes et apôtres d'avoir eu le péché en eux aussi longtemps qu'ils vécurent, et tous les hommes, tant qu'ils vivent de péché, Jésus-Christ excepté. Mais béni soit le Seigneur notre Dieu, qui nous a donné une foi contraire à une telle doctrine complaisante envers le péché, qui nous a donné de croire à la justice et au salut de nos âmes, qui nous a donné la parole de la foi dans nos cœurs pour croire en lui, CAD. Jésus-Christ, sur qui le secours est établi, qui est puissant et capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Ainsi nous trouvons grande raison de nous glorifier dans le Dieu de notre salut, ayant mis de côté toute gloire selon la chair, avec toute confiance en soi et toute ostentation. Il y eut encore d'autres points discutés entre nous lors de la dite réunion, concernant l'accusation contre le peuple appelé Quakers, mais la perfection en était le point principal. Après la discussion, John Horn divulgua un compte-rendu partial, boiteux et injurieux, faussement intitulé « The Quakers prove deceivers, and such as the people ought not to listen to, or allow, but to count them accursed ». Par quoi, dès la première page, il exposa sa grande envie et ses abus contre une société et un peuple religieux innocent, que le Seigneur a préservé, soutenu et béni au travers de toutes leurs persécutions, leurs reproches et leurs souffrances. Une réponse intitulée « The Quakers no deceivers » fut aussi publiée, pour démasquer le dit compte rendu partial et injurieux, dans laquelle les abus, la confusion et l'envie de John Horn, relatifs aux discours en question, sont plus pleinement démontrés et mis au jour. Afin que l'esprit âmé de nos adversaires apparaisse davantage, et de quel genre de persécuteurs ils étaient, observez leur traitement à mon égard. Dans un écrit « Contre moi et les Quakers », il nous donne ses caractéristiques, et ils sont en vérité des vipères et des scorpions, des basiliques, qu'on ne peut charmer, et semblables aux sauterelles sorties de l'abîme, dont l'aiguillon est dans leur queue, etc. Et pourtant, ces personnes qui nous ont ainsi reprochés ont confessé que nous, CAD. Les Quakers, sommes un lourd jugement que Dieu a ordonné contre eux, pour les punir de leur négligence à l'égard de Christ, du salut de Dieu et de la vérité, si longtemps maltraité par eux, comme dans leur brief Discovery, page 22. Sur quoi je fis cette remarque ? Or, de leur propre aveu, ils sont de ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, car les sauterelles n'étaient envoyées que pour punir les hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front, Apoc 9.4. Dans leur malice et leur confusion, ils ont renversé l'Écriture, et un jour ils sauront que notre opposition à leur égard est un jugement d'une toute autre nature que celui des sauterelles. Et plus ils s'efforceront, contre le lourd jugement que Dieu a ordonné pour les punir de leur négligence envers Christ et de leur abus de sa vérité, plus grande sera leur honte et leur tourment, comme dans Quakers No Deceivers, page 32. Et il était manifeste comment ce lourd jugement de Dieu affectait ces personnes, combien elles y étaient impatientes, combien elles s'en irritaient et en étaient troublées, combien elles étaient perplexes, agacées et poussées à la jalousie, à la rage et à la confusion, par un peuple insensé et méprisable à leur estime. Suite, l'objectif de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.